Il y a des idées reçues sur l'enseignement qui sont féroces et bien ancrées et qui sont en vigueur et qui font que ça ne sera pas facile d'innover. Mais ça, c'est que ce soit l'enseignement ou ailleurs, c'est toujours pareil. Donc on a cette idée de Louise Daben dans son article qui était le mythe du locuteur natif. On demande à l'élève, sans le dire d'ailleurs, mais on stresse l'élève avec l'idée qu'il va faire la langue pendant des années et des années, mais au bout, il aura une grande récompense, ça sera qu'il va parler comme un natif. Et quand il ira dans le pays, les gens le prendront pour un natif. Il sera fondu dans la masse. Mais cette idée, ça vous fait changer de personnalité presque. Et ceux qui se sont passionnés pour les langues, parfois même, ils ont changé de personnalité, ils sont devenus des gens différents, ils ont presque abandonné leur culture, etc., avec cette histoire de mythe du locuteur natif. Et surtout, ça c'est bien quand ça marche. Mais c'est que la plupart du temps, ça crée un tel stress et ça donne un sentiment de nullité, parce qu'on est très loin du natif quand on commence, et un sentiment d'impuissance, mais on n'y arrivera jamais, que ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Mais réfléchissez, toutes ces idées reçues, vous qui avez été élève en primaire parfois, en collège et en lycée, et même ici, si vous êtes en troisième année, vous avez même fait 2 ans de langue ici, réfléchissez si implicitement ces idées reçues ne vous ont pas été communiquées par les enseignants qui eux-mêmes en sont victimes, bien entendu. Alors, il y a aussi le sentiment de ridicule. Moi, je me rappelle très bien, j'ai été élève, moi aussi, peut-être c'est une autre époque et que les temps ont changé, mais on éclatait de rire quand quelqu'un en classe d'anglais se mêlait de parler avec l'accent. Il fallait parler avec un accent pourri, sinon c'était ridicule. Et je ne sais pas si vous avez vécu ce genre de situation dans les classes en collège ou en lycée, mais c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Et on a, en plus, on se sent ridicule en parlant faux, en faisant des fautes. Parce qu'on est là, on est parle de... Oui.
Même pour les langues régionales, par exemple, parce que dans certaines régions, il y a peut-être l'accent.
Oui.
Est-ce qu'il peut avoir ce même sentiment-là, même si on maîtrise la langue, mais que par rapport à la région d'où on vient, il y a quand même un accent marqué
Oui, alors, c'est-à-dire, je crois comprendre que ça veut dire que les gens tolèrent mal qu'on ait un accent différent et souvent ça les fait rire et on est obligé de perdre son accent souvent.
Se forcer vraiment à...
Et se forcer, oui. Il y a ce phénomène aussi, une sorte d'intolérance ridicule parce qu'on comprend très bien. C'est pas la peine de demander à l'autre de parler autrement puisqu'on comprend. Et si c'est lui qui parle comme ça, donc il y a une sorte de droit à parler avec son accent qu'on peut défendre, qu'on peut défendre. C'est pas tout à fait la même chose que je parlais, puisque je parlais moi de la situation en salle de classe. Mais j'ai énormément d'étudiants qui me disent « Moi, je suis nul en langue. » D'où ça vient, ce sentiment de nullité? Parce qu'on les a ridiculisés, plus ou moins. Bon, il y a même des histoires où le prof lui-même se moque. Parce qu'on a écrit « good », c'est une histoire, « G-O-U-D », par exemple. Alors là, mais bon, d'accord. Alors, si on doit apprendre des langues dans cette ambiance, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Il faut, donc, et le culte exacerbé des différences, j'en ai parlé. Les faux amis, j'en ai parlé. Et puis, je peux vous demander ce que vous pensez. Il y a des contradictions dans le public. Le public, comme je vous ai dit dans notre enquête, il dit, l'idéal pour apprendre une langue, c'est d'aller dans le pays. Bon, il le dit. Mais en même temps, si on lui demande individuellement, alors, quel est ton défaut, toi? Qu'est-ce qui t'empêche de parler? Moi, c'est parce que je n'ai pas les bases et je n'ai pas fait assez de grammaire. Il y a une demande de base et de grammaire. Qu'est-ce que c'est les bases? Dans la tête des gens, j'ai encore entendu dans le couloir hier des étudiants, je pense d'allemand ou d'anglais, qui disaient « Ah ouais, alors là, moi, je ne m'en sors pas parce que je n'ai pas les bases. Il faudrait absolument que je me mette à étudier la grammaire. » Alors je dis « Oui, bien sûr, étudier la grammaire, bien sûr, ça ne fait pas de mal. Mais il ne faut pas croire qu'on va parler et qu'on va trouver l'usage dans la grammaire, par exemple, qu'on va avoir des expériences linguistiques dans la grammaire. Non ? Il y a des gens qui connaissent très bien les grammaires, mais qui ne dégoissent pas, si vous comprenez ce que je veux dire. Ils ne sortent pas un mot correct, mais ils connaissent bien la grammaire, ils peuvent vous expliquer la grammaire. Donc, les bases, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la base, c'est l'interaction. Il faut vivre, et après, on ira à la grammaire. On verra le problème qui s'est posé, on le résoudra. Bon, disons que je le présente dans une optique d'intercompréhension, qui part de la pratique. Alors, Mais la demande de base est très forte, vous en témoignez. J'entends tous les jours de la part des étudiants. Je n'ai pas les bases. Comment voulez-vous en réalité, ce que dit l'étudiant, c'est « Non, je ne suis pas prêt pour commencer à apprendre. Je veux d'abord voir de quoi il s'agit. Et après, je verrai. » Si apprendre à faire quelque chose, c'est essayer de le faire pour l'apprendre. Or, il faut bien essayer de parler pour apprendre à parler. Il faut faire du vélo pour et se casser la gueule beaucoup de fois avant de tenir en équilibre. Donc, l'erreur, là, je ne suis pas le seul à le dire, tout le monde le dit, l'erreur, c'est vraiment un passage obligé, incontournable dans l'apprentissage, et même, il faut le considérer comme un bien, puisque c'est sur les erreurs qu'on va faire nos progrès. Et là, c'est là où il y a l'histoire des mauvaises habitudes. On est bloqué par cette idée reçue qu'il ne faut pas dire comme ça parce qu'on va prendre une mauvaise habitude, de mauvaises habitudes. Mais au fait, j'ai peut-être le danger de prendre une mauvaise habitude, mais est-ce que vous avez entendu ce que je disais ? Non, non, non. On n'a entendu que le risque de mauvaise habitude, la forme, autrement dit. Et si moi j'avais dit quelque chose d'intéressant, on s'en fout. Donc il y a ça aussi, ces corrections continuelles qui tombent sur les élèves, ça existe encore. Moi je me surprends en train de le faire, je suis contre. Mais dès qu'un étudiant ouvre la bouche, je suis toujours en train de vouloir lui couper la parole pour le corriger. C'est nul. Parce qu'il a dit peut-être des choses intéressantes à dire. Donc, et que se passe-t-il dans l'enseignement, dans cet enseignement traditionnel ? C'est qu'on passe à l'acte théoriquement très tard. On ne nous demande pas de nous confronter avec des natifs, sauf exception, etc. On va apprendre, on sait qu'on va apprendre pendant 11 ans, 12 ans, 13 ans. On va faire 1000 heures, par exemple, 1200 heures d'anglais. Et après, on va débarquer à Londres et on va dire bonjour et le mec ne va pas nous comprendre. Grave. Alors, bon, c'est ça le passage à l'acte tardif. Et puis, je n'ai pas signalé l'histoire de faire toutes les compétences de front. On pense qu'il est impensable d'apprendre une langue si on ne fait pas tout ensemble. Et c'est vrai, c'est la notion d'apprentissage de langue. Ici, on n'a presque pas de formation qui propose autre chose que l'apprentissage simultané de toutes les compétences. C'est-à-dire, dès le premier semestre, on vous dit, eh ben, il faudra parler. Et moi, je le dis, bien sûr, puisque c'est le contrat. Notre formation est comme ça. Faudra parler, faudra écrire, faudra lire, faudra comprendre ce qu'on vous dit, faudra interagir, faudra je ne sais quoi encore. Donc, tout en même temps. Et ceux qui sont... Et en peu d'heures en plus, vous savez qu'on a des très petits horaires, 21h de 21h, y compris l'évaluation de présentiel. Le travail personnel, bon, et le travail autonome, c'est encore pas forcément très bien institué, c'est un peu livré au goût et à l'énergie de chacun, un peu trop, et donc c'est pas gagné. Pour apprendre les quatre compétences en 21 heures, on peut le faire 10 fois de suite. Ça dépend de la langue aussi. Il y a aussi une autre idée reçue que je pouvais mettre, c'est celle de considérer toutes les langues avec le même statut et de donner la même progression pour toutes les langues. Par exemple, quelqu'un qui commence le portugais et quelqu'un qui commence l'allemand, on lui demande d'atteindre le même niveau en même temps. Non, ben non. Il y a quand même beaucoup plus de différences et de travail à faire. Ce n'est pas que l'allemand est plus difficile. C'est qu'il y a moins de choses à apprendre pour une langue romane que pour une langue germanique, pour un francophone. Et je ne dis rien des langues asiatiques. Et même pour un asiatique. Lorsque j'ai un asiatique qui vient dans mon cours de portugais, je n'applique pas la même grille de notation qu'un francophone ou un hispanophone. Alors évidemment, les hispanophones, c'est les rois, eux. Ils vont très vite dans les cours de portugais. Ils vont très vite, on voit la différence. Et en plus, ils ne mélangent pas avec l'espagnol. C'est les Français qui mélangent avec l'espagnol, parce qu'ils ont appris l'espagnol. Et c'est donc notre idée reçue, c'est de mettre toutes les langues sur le même plan. Mais ça, ce n'est pas que les Français. Par exemple, en ce moment, dans l'Amérique du Sud, ils se sont mis à apprendre les langues des autres. Et alors, les langues des autres, c'est l'espagnol et le portugais. Donc, on fait de l'espagnol au Brésil et du portugais en Argentine, par exemple, partout maintenant, pratiquement. Eh bien, ils ont transféré la pédagogie de l'anglais ou du français. Et en avant, donc c'est drôle d'apprendre une langue qu'on comprend déjà comme si on ne la comprenait pas. C'est un peu comme l'enfant qui vient apprendre à lire à l'école, il a l'impression qu'il ne sait pas sa langue. En réalité, il parle très bien sa langue, et on va lui apprendre à lire, et on n'arrête pas de lui dire qu'il se trompe.